franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La virilité moderne, 16e, 18e siècle.
Nous allons nager.
Nager ? Pourquoi ? Vous voulez en faire un marin ?
Non, je veux en faire un homme.
Je savais qu'il fallait une queue pour faire un homme, mais je n'avais jamais pensé aux nageoires.
Qu'il est difficile de fixer la virilité. Ses attributs ne se tiennent pas toujours au même endroit, qu'on pense par exemple, non pas aux nageoires, mais à la barbe, à la moustache, un fait corporel, apparemment anodin, et que les historiens auraient tort d'abandonner au magazine parce qu'il est à sa manière un fait social. Un moment, la virilité exige le poil, un autre, la voilà devenue imberbe. Souvent, virilité varie. Au XVIe, au XVIIe, le courtisan subtil ne l'envisage pas comme le faisait le chevalier plus brutal du Moyen-Âge et le piéton artisan de Paris, dans la mesure où on sait quelque chose de lui, n'a pas les mêmes manières que le cavalier. Au fond, pendant cette période que nous allons examiner, c'est la représentation de la femme qui change peut-être le moins. L'homme n'est-il pas alors davantage occupé à interroger sa virilité qu'à considérer la femme? Une gigantesque histoire de la virilité en 3 volumes paraît aux éditions du Seuil. Nous recevons l'un des 3 maîtres d'œuvre. Ce n'est ni Jean-Jacques Courtine ni Alain Corbin, c'est Georges Vigarello soi-même.
Bonjour.
Comme vous avez été professeur de natation ou de gymnastique
On peut dire de gymnastique si vous voulez, mais ça s'appelait éducation physique à l'époque.
On avait réservé un son au départ à votre intention. Vous êtes un explorateur de la longue histoire du corps. C'est bien peut-être de commencer en évoquant la femme, parce que à l'époque qui nous intéresse, 16e, 18e siècle, on va se border à ça. L'homme, c'est l'excellence et la puissance, et la femme, c'est la beauté.
Ah voilà, à l'époque moderne, c'est-à-dire 16e siècle, tel que l'entendent les historiens, oui, la femme, c'est la beauté, c'est le parangon, c'est l'affirmation de ce qui apparaît comme l'idéal de l'esthétique. Et il y a un signe qui me paraît très clair dans la peinture, c'est le fait, par exemple, que Vénus l'emporte sur la Vierge. Et Vénus, c'est précisément l'idéal de la beauté. Alors du coup, nous nous trouvons confrontés à deux grandes oppositions. La beauté d'un côté qui est vraiment l'absolu de ce que l'on pourrait penser, imaginer et souhaiter. Et d'un autre côté, la force qui est également l'absolu, c'est l'homme. Et en même temps, cela renvoie à de l'espace. C'est-à-dire la femme, c'est l'être du dedans, c'est l'être qui reçoit, c'est l'être du décor. Et l'homme, c'est l'être du dehors, c'est l'être de l'affrontement, c'est l'être du travail, c'est l'être du combat. Travail, affrontement, combat, virilité.
Virilité, étymologie, on ne va pas remonter au grec.
Vire.
Le latin. Oui.
Vire. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est que
c'est
l'homme,
la puissance,
c'est l'homme dans l'excellence. C'est ce que nous voulions montrer, voyez-vous. Ce n'est pas simplement le problème du masculin. C'est le problème de l'idéal du masculin. C'est-à-dire l'assomption absolue de ce que l'on peut attendre dans l'idéal de lui.
Alors l'idéal du masculin, selon les ordres. On va procéder par ordre.
Oui.
Quand je dis ordre, nous sommes sous l'Ancien Régime,
absolument,
dans le cas français, et le second ordre, mais celui qui fait les modes, c'est celui de la noblesse. Alors on va partir pour le voyage, sabre au clair, avec des cavaliers qui chevauchent d'excellentes montures.
À propos, monsieur de Gerfeuil, connaissez-vous la collection de sabres de nos amis les marquis ?
Comment ? Vous aussi, vous collectionnez les sabres ?
Mon mari en a surtout un, de toute splendeur, dans un écrin de cuir cramoisi, étroit, la lame effilée.
Non.
Mais oui !
J'ai toujours été fasciné par les sabres, et je ne sais pas pourquoi.
Tiens donc, serait-ce la forme ?
La puissance ?
La position ? On le porte bas le long de la jambe lorsqu'il ne sert pas. Puis haut et droit lorsqu'on monte à l'assaut.
Alors, les sources de Franck Olivard qui a préparé cette émission sont des films. Ici, un film de Gabriel Aguillon. Vos sources, à vous, Georges Vigarello, vous et vos collaborateurs, ce sont par exemple les manuels du courtisan qui sont innombrables.
Innombrables
à cette époque.
À l'époque
moderne. Qui parlent l'épée plus que du sabre.
Alors, passons sur les allusions transparentes que comportait ce film. Oui, le courtisan installe un habitus, c'est-à-dire une façon d'être, qui est totalement nouvelle par rapport à ce que pouvait être le chevalier. Nous passons évidemment du chevalier au cavalier, mais ça ne suffit pas, je crois qu'il faut dire davantage. Nous passons d'armes qui sont des armes de force et qui sont des armes de choc, à des armes, et je pense à l'épée en particulier, qui deviennent des armes de finesse et des armes d'agresse, ce qui transforme totalement le comportement du courtisan et ce qui fait que l'on attend de lui autant de la force que de l'adresse, ce qui fait que les vieux barons vont se moquer, évidemment, des jeunes damoiseaux qui, apparemment, comportent dans leur comportement plus de féminité que de virilité. Ce qui s'avère totalement faux, parce que, bien sûr, ces jeunes nobles sont parfaitement capables d'affronter le duel et de regarder l'autre et de regarder la mort les yeux dans les yeux.
Alors autant de délicatesse que de fermeté, dans viril maintenant, avec les manuels des courtisans, il y a civil.
Oui, c'est cela. Il y a civil, il y a la civilité, c'est-à-dire ce qui comporte l'étiquette, la politesse et surtout la retenue. À quoi s'ajoutent des comportements ? J'y reviens, passant sur l'épée, mais s'ajoute la danse, par exemple, s'ajoute l'écoute de la musique, c'est-à-dire autant de repères qui peuvent apparaître comme des repères de faiblesse et qui vont conduire à ce que certains courtisans, sous Henri III, par exemple, vont tout simplement s'appeler des mignons avec le soupçon d'homosexualité, ce qui reste encore parfaitement à démontrer. Donc, on voit bien, là, le décalage, mais ce qu'il faut absolument souligner avec une certaine insistance, c'est qu'au-delà du décalage, ce qui incorporent ces nouvelles pratiques, n'en sont pas moins ceux qui revendiquent, bien entendu, de la virilité et de la puissance.
Alors, le modèle courtisan est induit du modèle monarchique. Un chapitre est consacré par Stanis Pérez au modèle de longue durée de Louis XIV, toujours une source cinématographique, Roger Planchon. Louis, l'enfant roi, il entre ainsi dans l'âge adulte.
Le mieux, je crois, est de vous déniaiser.
Venez sur le lit. Nous allons étudier. Comme Adam et Ève, nos illustres parents, nous étudierons tout nus. Nous étudierons avec application comment les femmes sont faites et le plaisir qu'elles peuvent donner. Toutes vos leçons, c'est la plus agréable, Majesté. Venez découvrir la merveille et le sel de la vie.
Notre roi fut glorieux.
La béatitude de Sa Majesté fut extrême.
Une béatitude extrême, vous entendez?
Madame de Beauvais est épuisée.
Madame de Beauvais, c'est grand.
Félicitations.
Infatigable dès le premier assaut. Alors voilà, le roi.
C'est un passage magnifique. C'est un passage magnifique parce que.
Superbe et puissant.
Et oui, parce qu'on voit bien que ce que l'on attend du roi, c'est la puissance, et en particulier la puissance sexuelle, qui est le symbole, si je peux dire, maximal. Quoique soit également présente la référence, bien sûr, à la guerre. Mais vous savez, ça commence avec Louis XIII. Louis XIII a une éducation. Hérouard le raconte très bien dans son journal, le médecin de Louis XIII. Il a une éducation qui fait une place très forte à cette préoccupation concernant le sexe du roi. Est-ce que le sexe du roi est susceptible d'érection ? On transforme ce sexe en petite poupée avec lequel il s'agit de jouer. Et donc, on voit bien que là, il y a un souci. Et en même temps, il y a une valeur intense attribuée à ce type de problème.
Oui, mais il y a toujours les deux faces que vous décriviez, Georges Vigarillo. Il y a la chasse, Louis XIII l'a pratiqué beaucoup. Il y a la danse. On n'imagine pas que Louis XIV était un immense danseur, un danseur grave.
Oui, mais c'est un immense danseur, effectivement. Il y a des images qui restent, en particulier de son jeu d'Apollon, qui représente une sorte de soleil. Mais on voit très bien que cet Apollon est en quelque sorte construit sur un mode extrêmement fin. C'est quelqu'un qui est capable de bondir, de faire des sauts, qui a de la légèreté. Et cette légèreté, justement, vous voyez, c'est ce qui est en rupture par rapport aux vieux repères qui étaient ceux de la lourdeur et qui étaient ceux de, je dirais, de la puissance de choc. Là, Louis XIV, ça se produit déjà quelques décennies auparavant, mais Louis XIV porte, je dirais, une image maximale, celle d'un roi susceptible d'une extrême finesse.
Oui, alors, si je peux vous faire un reproche,
vous pouvez
vous consacrer plus de place à l'ordre aristocratique avec son modèle monarchique qu'au tiers-État. Heureusement, Arlette Farge est là, il y a Louis XIV, mais il y a 20 millions de Français aussi, Georges Vigarello. Et parmi ces Français, une masse de paysans. Alors ici, on est en compagnie de Fanfan la Tulipe.
Oui,
dialogue d'Henri Janson. Très fin, les dialogues, vous allez voir. Correspondent aux thématiques de votre livre, la famille et le village. poursuivent Gérard Philippe, Fanfan la Tulipe, et Marion, qui sont dissimulés dans une meule de foin.
Qu'est-ce que tu lui veux, Aguillot ?
Ta fille est en train de se faire culbuter !
Ma fille ?
Putain, tous les deux !
Mon Dieu, mon père.
Ah, te voilà, coquin. Et toi, viens ici.
Tu n'as pas honte, Marion ? À ton âge ?
À son âge ? Mais c'est de son âge, imbécile.
Ne veux-tu en mettre ton cotillon ? Plutôt que de nous montrer tous les présents que le bon Dieu t'a fait ? Bougre de petite garce ! Et moi qui te croyais à confesse.
Elle ne pouvait pas se confesser avant d'avoir péché.
Marion, cabaye !
Qu'avez-vous à me reprocher ? Marion est belle et désirable. Elle en doutait. Je lui ai prouvé qu'elle pouvait plaire. Pas vrai, Marion ?
Un beau parleur, voilà ce que tu es !
Je t'écraserai comme une noisette !
Amenez-vous, Guillaume ! Vous vous casserez les dents sur cette noisette-là !
Tu parlais sur un autre ton à ton futur beau-père !
Oh, mon futur beau-père ! Vous voulez rire ?
Qui cueille une fleur, recueille un fruit ! Ou tu épouses Marion, ou je suis un jean-poutre.
Hélas, c'est bien ce que je disais, je ne l'épouserai pas.
Elle sera ta femme.
Ne l'écoute pas, Marion, fais-moi confiance, et rassure-toi, je ne t'épouserai pas.
Alors avant qu'il ne faille faire une fin, se marier, Fanfan la Tulipe s'y refusera, et choisira la virilité militaire. Comment est-ce la virilité populaire ?
Alors, il y a quand même une présence du peuple dans ce texte. Peut-être pouvait-on
dans votre livre, oui.
En souhaiter davantage, mais il y a une présence. Et effectivement, l'article d'Arlette Fage est absolument magnifique. Il y a de très beaux articles sur le Moyen-Âge, concernant le peuple, oui.
Nous les fabliaux, etc. 18e.
Alors, qu'en est-il de l'image du peuple ? Écoutez, ce qui est quand même très fort, c'est que c'est la prédation qui domine. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptation d'une puissance dominatrice sur la femme qui fait que c'est quelque chose que l'on s'approprie, c'est quelque chose que l'on peut, en quelque sorte, dominer en prenant, avec cette image, voyez, du rapt, en quelque sorte. Il y a ce passage magnifique dans le journal de Ménétra.
Alors, Ménétra, c'est un artisan vitrier. Ménétra,
c'est un artisan vitrier.
Quand on a retrouvé le journal,
voilà.
C'est incroyable. Alors,
c'est très rare, parce que les gens du peuple laissent très peu, comme ça, de souvenirs, d'écritures, de journaux. Or, Ménétra a laissé ce journal, qui a été présenté de manière que je trouve tout à fait remarquable par Daniel Roche. Ça a été publié il y a quelques années. L'épisode est le suivant. Ménétra se promène dans ce qui existe aujourd'hui et qui est le bois de Vincennes. Et il rencontre, il dit, je rencontre un nid d'amour. Il est avec un copain, Ménétra. Ce nid d'amour, vous devinez évidemment que c'est un couple qui se livre à des relations plus qu'intimes. Et ce couple a planté à 2 mètres de lui une épée, comme s'il s'agissait de défendre. Que font les copains, Ménétra et son ami ? Ils s'emparent de l'épée, ils dominent. L'homme qui se trouve dans le nid, et puis bien entendu,
ils organisent une tournante.
Ils organisent ce qu'aujourd'hui on appelle une tournante. Et Ménétra ensuite laisse les deux personnages à leur sort et considère que ce qu'il a fait, c'est très bien. Il est très content. C'est une sorte d'acte de puissance réussie,
les femmes
d'affirmation,
gibier.
Voyez-vous. Donc c'est une femme gibier, absolument.
Dites-moi, on est là chez les artisans de Paris, dans le tiers-état, et si on parlait un peu du premier ordre, je veux dire. Du clergé. Là aussi, une vision assez originale dans votre livre, Jean-Marie Le Gall explique qu'il existe une virilité, bien entendu, pour le clerc.
Bien sûr. Alors Jean-Marie Le Gall fait un très beau texte. Et ça, nous tenions beaucoup. Nous tenions beaucoup à ce que la question porte sur qu'en est-il du clerc ? Comment le voit-on par rapport à la virilité ? Je crois qu'il faut dire 2 choses. La première, c'est que dans la religion catholique, tout le monde le sait, le mariage est interdit pour un prêtre. D'où ? Au moment de la réforme, que se passe-t-il ? Alors que les pasteurs peuvent se marier, les pasteurs ridiculisent évidemment les clercs catholiques et ils considèrent que ce sont des damoiseaux, des impuissants, incapables de conduire le peuple, incapables de convaincre. Ils connaissent pas la vie, ils savent pas ce que c'est que la vie. Bon, or deuxième versant, les catholiques. Les catholiques disent au contraire, mais non, c'est ceux qui sont en mesure de consacrer l'ensemble de leur vie à quoi ? À la direction du peuple. C'est-à-dire, ce sont des pasteurs, ce sont des gens qui orientent le troupeau. Donc, bien sûr, ils sont virils. À quoi faut-il s'ajouter une 3e chose ? C'est l'obsession permanente de la virilité du clerc avec la mise en place de scènes libertines. Et il y a une multiplicité comme ça, à la fois de textes et d'images libertines, que nous rendons présentes, bien sûr, dans notre livre, et qui montrent que, au fond, après tout, c'est celui qui est capable de transgresser.
Je vais vous conter l'histoire d'un vieux curé de Paris.
Nous allons vous conter l'histoire d'un vieux curé de Paris.
D'un vieux curé, oui, d'un vieux culala, d'un vieux curé de Paris. D'un vieux curé, oui, d'un vieux culala, d'un vieux curé de Paris.
Chaque fois qu'il dit sa messe, son grand vicaire le suit.
Chaque fois qu'il dit sa messe, son grand vicaire le suit.
Son grand dit oui, oui, son grand dit lala, son grand vicaire le suit. Son grand dit oui, oui, son grand dit lala, son grand vicaire le suit. Chaque fois qu'il monte en chaire, tire un coupable d'enfer.
Chaque fois qu'il monte en chaire, tire un coupable d'enfer.
Tire un coup, oui, oui, tire un coup, là, là, tire un coupable d'enfer. Tire un coup, oui, oui, tire un coup, là, là, tire un coupable d'enfer. Le héros de cette histoire est Pinault, curé de Paris.
Le héros de cette histoire est Pinault, curé de Paris.
Pinault, cul, oui, oui, Pinault, cul, là, là, Pinault, curé de Paris. Pinault, cul, oui, oui, Pinault, cul, là, là. Curé de Paris.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'histoire de la virilité aujourd'hui avec Georges Vigarello, l'un des trois maîtres d'œuvre des trois volumes qui sont intitulés ainsi aux éditions du Seuil. Et puis en vignette, c'était Colette Renard.
Colette Renard avec sa voix tout à fait ironique et qui rappelle les épisodes que j'évoquais tout à l'heure.
N'étant pas tenus par les liens du mariage, au fond, peuvent exercer leur sexualité sans engagement
social.
Et du
coup, il y a cette obsession, voyez-vous, sur la transgression du clerc.
Alors dites-moi, on va maintenant entrer dans la deuxième partie. La pente va être descendante. Après tous ces emblèmes de puissance et de vigueur, voici la virilité inquiète. Car la virilité triomphante ne se déplace jamais sans son ombre. Il n'y a jamais loin de la parade. À la débandade, l'homme qui se prend pour un centaure peut vite devenir ridicule.
Oh là, oh, belle de jour. Oh là, oh, oh, oh. Ah. Bonjour.
Bonjour.
Oh. Oh, oh, oh là. Oh. Il est de toute beauté. Je connais les chevaux. Je l'avais regardé maintes fois dans son box. Et celui-là, il est superbe. Oh là, oh là, il est superbe.
Oui, elle est belle.
Oh, hey, hey, oh. Attention, belle de jour. Allons, allons. Hé, oh.
Oh. Hey, vous oubliez ça.
Comment? Oh.
Là, c'est Jean Rochefort, qui est pourtant un excellent cavalier, mais il suffit de peu. Hein,
en l'occurrence,
et puis,
ici,
on peut s'éloigner de son objectif.
On sent des doutes, effectivement.
Ouais. Alors, le cheval est dressé, c'est souvent comme ça qu'il est représenté dans la peinture. Le membre aussi doit être dressé. Mais il arrive que la panne intervienne et que la virilité soit soumise à des éclipses, même chez les plus vigoureux. Ici, c'est Louis XIV. Son premier ministre, Sully, vient lui rendre visite.
Sire, vous n'êtes pas dans votre assiette?
Je suis au bouillon depuis trois jours. Une méchante défluxion m'est tombée sur le gosier qui m'a fait enfler la luette. J'ai le cerveau tout congestionné et mouche aussi jaune qu'en hiver. J'ai une oreille qui siffle, la douleur a voyagé dans le bas-ventre et ma gravelle est revenue. Monsieur Loiseau, mon médecin, m'a trouvé la verge enflée, froide, mollasse et insensible. La diète, les saignées et les eaux de pouge m'ont fait un peu de bien. Henriette, elle, prétend que je pue comme une charogne. En colis, je peine un peu. Oh, en ce moment, oui, peut-être.
Je ne suis pas très sûr qu'il s'agisse de Louis XIV. C'est en fait extrait d'Henri IV.
Oui, parce que vous évoquez Sully, donc effectivement, c'est Henri IV.
Oui, alors, la verge d'Henri IV lui-même...
Ben oui.
Peut devenir insensible et froide. Alors, il faudrait que vous nous parliez de la virilité inquiète telle qu'elle est perçue par les médecins.
Alors, en deux mots, nous, ce que nous voulions faire, c'était à la fois montrer que la virilité, c'est un objet d'histoire, mais que dans cette histoire, cette excellence toujours postulée et souhaitée comporte aussi du risque et de la défaite. Et donc, c'est aussi une histoire des crises, si je puis dire. Alors, en ce qui concerne ce que nous venons d'entendre, c'est vrai que l'image de l'homme dans la période moderne, c'est une image qui passe par la chaleur. C'est-à-dire, l'homme, c'est le sanguin, il est chaud. La femme, elle est flegmatique, ce sont les humeurs qui dominent, voyez-vous, les corps. La femme est flegmatique, elle est blanche, d'où l'obsession sur la blancheur, hein, et elle est froide. Donc si la verge se mettait brusquement à être froide et en plus à gonfler d'une façon qui n'est pas celle de la rigidité, on tombe du côté du flegme, voyez-vous. Et c'est la grande inquiétude, bien entendu. Et alors les médecins, que font-ils? Ils essaient d'abord de saigner pour débarrasser des excès de flegme, de blanc, etc., pour retrouver la tension et éventuellement la chaleur.
Et puis l'inquiétude, elle vient aussi du fait que l'âge de la virilité est très court.
Oui, bien
quand
entendu.
On lit Ambroise Paré, on parle de la médecine, c'est fini à 35 ans. Enfin, je veux dire qu'après intervient la vieillesse, mais dès seconde phase de la vieillesse, on tombe dans l'imbécilité.
Aussi, oui, mais voyez, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans une certaine mesure, l'inquiétude est constante. Je pense par exemple à ces scènes qui sont très fréquentes dans la période moderne, où au moment du mariage, le mari soupçonne un sorcier de venir nouer l'aiguillette, c'est-à-dire nouer le petit ruban qui tient le bas de la femme. Et le fait de nouer l'aiguillette, théoriquement, le rend impuissant. Donc voilà, si j'ai de l'impuissance, je sais qui je peux accuser, le sorcier du village. Vous voyez, il y a toute une situation là où on voit que l'inquiétude est quand même relativement variée, qu'elle a des objets différents et qu'au fond, elle est quand même très souvent là.
Heureusement, à la cour, on est revenu à la cour. On peut recourir aux serviteurs. Chez le grand turc, les serviteurs qui sont surpris avec des favorites deviennent des eunuques, tandis que chez le régent, au début du XVIIIe siècle, on ne les menace pas, on les attend même.
J'adore les grands formats.
Madame, votre serviteur.
Longue saucisse et courte messe, comme disait ma mère. Belle profession de foi, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce, voulez-vous ouvrir mes huîtres?
Mais ce n'est pas mon emploi.
Quel est donc votre emploi?
Mirebalais.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est mirebalais?
Dans une bataille, il faut des troupes fraîches. Eh bien, nous sommes des troupes fraîches. Et quand les lumières s'éteignent...
Voilà un métier stupéfiant.
Que la fête commence, début du XVIIIe siècle. Bah oui, mais à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, le noir sous lequel se dissimulent ces choses s'obscurcit. On ne sait plus qui est qui. Il y a une sorte d'indécision à mesure qu'on entre dans les lumières.
Au 19e, ce qui se produit, ce que vous dites, bien sûr, hein, il y a de l'indécision, etc. Mais ce qui se produit fondamentalement, c'est la crainte de se trouver confronté à l'envers du progrès. Le 18e siècle est le premier siècle qui pense le temps sur le mode de l'avancée et du progrès. Condorcet, les évolutions de l'esprit humain, par exemple, voyez-vous. Et la crainte, c'est précisément que les choses s'inversent et que brusquement, nous soyons dans une situation de dégénération. Et c'est le mot qui est employé, d'ailleurs, chez Buffon. Que montre-t-il? Lui qui s'intéresse aux animaux, à la façon dont ils vivent, à leur milieu, etc. Que montre-t-il? Il montre que le passage d'un animal qui le fait, au fond, se déplacer de la sauvagerie à la domesticité, c'est un passage qui l'affaiblit. Et donc, l'idée que l'homme peut rentrer dans une sorte de position d'excès, de luxe, d'excès de confort, peut l'affaiblir et peut le conduire, finalement, à manquer à la fois de virilité et de puissance. C'est une grande inquiétude du 18e.
Volupté, oisiveté.
Oui, volupté.
Sont source d'efféminement.
Voilà, exactement. Et alors, là encore, on voit les aînés qui décrivent les jeunes comme étant des damoiseaux. Moi, j'ai une description en tête qui est extrêmement précise, où l'auteur qui a écrit dans les années 1760 dit « Mais ce ne sont plus des hommes qui sont à cheval, ce sont des corps qui sont d'une finesse incroyable, et finalement, ce sont des demoiselles. »
Archibald m'a été envoyé par sa mère dans l'espoir que notre climat saura tempérer le feu qui coule dans ses veines.
Ainsi, monsieur Cunningham, quels sont ces péchés qui mettent au désespoir votre pauvre mère? Les dés? La boisson? Ou butinez-vous les jeunes garçons?
Voici des années, votre grâce, que je n'ai butiné de garçon. Et pour ma défense, je dois ajouter que je l'ai pris pour une fille au moment d'entrer.
Ah, qu'en dis-tu, Guthrie? Notre Archie confondait trou du cul et amande.
À ce qu'il paraît, beaucoup d'Anglais rencontrent les mêmes difficultés.
Le libertin efféminé, c'est pas un homosexuel. Le terme n'existe pas, d'ailleurs.
Le terme n'existe pas.
Il va se développer seulement
le libertin efféminé,
dans le vocabulaire à la fin du 19e.
C'est celui qui se livre à un excès de sensibilité.
Aussi donc, bien avec les garçons qu'avec
entendu,
les filles.
Qu'avec les filles, bien sûr. Et cet excès de sensibilité peut apparaître, là encore, comme une faiblesse, même si le 18e siècle, les Lumières, sont quand même, correspondent au temps où on invente véritablement la profondeur du sensible. Ça, c'est extrêmement important, à mes yeux.
Vous dites que les changements que vous décrivez à l'époque des Lumières ne sont pas vraiment liées à la présence des femmes et à leurs interrogations.
Non, je crois que c'est effectivement important de dire ça. Il y a une première, un premier versant que nous évoquions et qui est celui de la crainte de la dégénération. Il y a un deuxième versant dont nous n'avons pas parlé, qui me paraît également très important, c'est celui du conflit entre le cadet et l'aîné. Et pour la première fois, le conflit a toujours existé, mais pour la première fois, il se présente comme susceptible de donner la victoire du cadet. Le cadet dans les pièces de Diderot, les pères, je ne connais que des tyrans, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement, qui va donner le privilège au cadet. Pour dire les choses de façon évidemment simpliste et totalement caricaturale, la Révolution française n'est autre chose que ce genre de renversement.
Oui, mais ça, c'est le cadet qui l'emporte sur l'aîné, le fils dans la peinture de Greuze qui oui. l'emporte sur le père. Mais la femme...
Alors justement, la femme n'est pas en jeu dans cette affaire. Elle n'est pas là, vous voyez. La femme est elle reste absente, avec une différence quand même. Avec une différence qui... créer une rupture par rapport aux époques précédentes. Je pense au texte de Diderot et je pense au texte de Rousseau. La différence est la suivante. On installe de l'égalité. Diderot dit la femme est égale. Bien. Mais la théorie sur laquelle il fonde l'égalité, la théorie organique, n'est plus la même que celle dont nous parlions tout à l'heure. Que dit-il ? Il ne dit plus la femme c'est le froid, l'homme c'est le chaud. C'est terminé là le rapport au tempérament et aux humeurs à l'époque de Diderot en 1760-1770. Que dit-il ? Il dit la femme et à un organisme qui est centré sur la fécondation. Donc son bassin est complètement arrondi, ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme est trapézoïdal, la femme est en forme d'ovale, si vous voulez. Voyez. Et ça, évidemment, c'est un grand changement. Mais cela dit, on ne prend pas en compte dans ces combats le problème de la femme.
Parce qu'il est beau, mon chibre, quand il est à l'air libre. Son uniforme est joyeux, tête rose et veine bleue. Il a l'œil qui quémande, quelques lèvres gourmandes, quelques noisettes serties dans un abricot petit. À ce qu'il est beau, mon chibre, quand il est à l'air libre.
Bah oui, c'est que l'homme n'est occupé que de son nombril ou de son organe. C'est une des leçons pour l'époque moderne de cette histoire de la virilité. Trois volumes, Jean-Jacques Courtine, Alain Corbin et vous, Georges Vigarello, vous en êtes les maîtres d'œuvre. Vous avez publié aussi, avec Didier Sicard, aux origines de la médecine, une autre grande entreprise encyclopédique chez Fayard. Demain, nous parlerons d'un homme multiforme, Boris Vian. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Grégory Wallon, Cédric Lalanne et à la préparation Meryl Moneghetti, Franck Olivard et Frédéric Martin.